Y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour, nous n'avons pas voulu voir Tout le monde debout, le premier film de Franck Dubosc. On n'a pour l'instant pas vu Tomb Raider et nous n'avons malheureusement pas vu non plus Hostile avec la dernière performance de Christian Bale. Mais qu'est-ce qu'on a pu bien voir, Manu ?
Eh bien, j'ai vu Ghostland, le quatrième long métrage de Pascal Laugier qui avait traumatisé des gens avec le fameux Martyr. Et puis le dernier, Hong Sang-soo, la caméra de Claire.
Et puis moi j'ai pu voir Razia de Nabil Ayouch, un regard sur les contradictions du Maroc moderne et la menace sur les libertés. Ça nous donnera l'occasion eh bien, d'écouter le réalisateur franco-marocain qu'on a pu rencontrer. Je vous parlerai aussi de l'affaire Roman J de Dan Gilroy avec Denzel Washington. Et puis eh bien, je vous parlerai de Chien, film de Samuel Benchetrit avec Vincent McKen qui perd tout et devient un chien. Ce sera l'occasion de jouer à un blind test avec eh bien, le comédien Vincent McKen. C'est Cinérama qui débute avec un film d'épouvante français.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement.
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
De quoi elle parle, cette histoire ? Un type entre chez les gens, il tue les parents et épargne les filles. Et il reste avec elles et les cadavres des parents.
Alors, 6 ans après le mitigé The Secret, qui souffrait d'un retournement de situation un peu douteux, Pascal Laugier revient plutôt en forme avec son nouveau projet Ghostland. Alors, le film s'ouvre par un portrait de Lovecraft, hein, mais c'est davantage sur les terres de Stephen King que le français s'aventure avec une histoire classique, mais suffisamment tordue pour captiver, du moins pendant une première partie immersive et éprouvante. Alors, suite au décès de sa tante, Pauline et ses deux filles, hérite d'une maison bizarrement remplie de poupées, ce qui donne d'emblée un petit cachet visuel saisissant. Alors dès leur arrivée, alors deux tarés, un travesti sinistre, genre Marilyn Manson, et un attardé mental obèse, pénètrent dans la demeure et agressent les nouvelles occupantes. Pauline parvient à sauver ses filles dans une lutte très sanglante. Bref, ce drame traumatisant va affecter la vie de chacune d'entre elles. Alors, 16 ans plus tard, hein, Bess, l'une des filles, est devenue une auteure à succès, spécialisée dans la littérature d'épouvante. Suite à un appel téléphonique inquiétant, elle part rejoindre sa mère et sa sœur Vera, qui s'enlisent dans une paranoïa destructrice liée au trauma originel. Alors nous voilà donc de retour hein, dans cette maison hostile que Vera et Pauline n'ont jamais quittée et on se demande vraiment pourquoi. Bien sûr, hein, il y a une explication à ce qui pourrait apparaître comme une invraisemblance ou une situation peu crédible. Hein. Tout comme le fait que Bess, l'ex-adolescente introvertie, vit dans un bonheur cotonneux entre sa réussite artistique, son charmant mari et son gamin tout mignon. Alors tout cela paraît vraiment trop beau, digne d'une romance à l'eau de rose. Alors en dire plus serait un crime, mais l'intelligence du scénario est de justifier a posteriori tout ce qui peut sembler grossier et artificiel.
Incident in a Ghostland est de loin votre livre le plus personnel.
C'est un best-seller, tout le monde t'adore, tout le monde t'aime.
Je sais pas d'où vient ton talent, ma chérie.
Qu'est-ce que tu fais ici ?
Cette capacité à créer des univers bien à toi.
La vraie question, c'est pourquoi avez-vous écrit ce livre ?
Pour ne pas devenir dingue.
Vera ?
Elle continue à revivre ce qui s'est passé cette nuit-là.
Alors Pascal Laugier réussit vraiment un film d'horreur mental et graphique, hein, synthétisant ses obsessions récurrentes. Alors la violence exacerbée sur les corps de jeunes filles, comme dans Martyr, construction habile d'un univers gothique anxiogène, bah, comme dans Saint-Ange, et puis vision émouvante et naïve de l'adolescence meurtrie, des références aussi explicites à l'univers putride de Lucio Fulci, certainement son cinéaste préféré, et particulièrement à la maison près du cimetière. Alors entre le survival malsain à la massacre à la tronçonneuse et le raffinement esthétique du cinéma de genre italien, Ghostland s'impose comme une bonne surprise, malgré une deuxième partie qui revient sur des rails plus conventionnels une fois le twist éventé. Alors, Mélogie est un vrai cinéaste exploitant au maximum la maison de poupée, véritable cabinet de curiosité provoquant à plusieurs reprises quelques frissons tétanisants. La mise en scène est très soignée, trop diront certains, avec son élégante photo tout en clair-obscur, ses mouvements de caméra fluides et sa jolie partition au piano, mais elle est aussi cohérente, pas seulement élégante. Elle interroge la notion de point de vue et s'y tient jusqu'au bout. tout est perçu du point de vue de Bess. Gosland est ainsi le portrait émouvant d'une jeune héroïne vue de l'intérieur, une plongée dans sa psyché perturbée. Alors j'en dirai pas plus, mais la beauté fragile de ce film inégal toutefois est d'intégrer des éléments du mélodrame au cœur d'un récit viscéral et brutal. Alors non dénué de défauts, à l'instar, mais alors ça c'est un peu récurrent, des pénibles jumpscares hein, qui ponctuent le film du début à la fin, et aussi une fin un peu trop vite expédiée, Gosland demeure l'un des meilleurs films de genre français de ces dernières années. Avec en prime Mylène Farmer, hein, formidable dans un contre-emploi, c'est son premier rôle réellement au cinéma, mais on s'attendait à un autre rôle, bien qu'elle fait partie de cet univers, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de surprenant de la voir dans ce film, sauf que le rôle n'est pas celui que l'on attendait spécialement. Donc c'est plutôt une bonne surprise.
Et à noter que c'est interdit, un peu comme
Martyr. Interdit en moins de 16 ans, mais c'est beaucoup moins éprouvant.
Que Martyr. J'avoue que Martyr était presque à la limite.
On est quand même plus dans un film de... Alors je ne vais pas dire semi-fantastique, classique. Voilà.
Ce sera plus facile d'aborder pour les moins de 16 ans, hein. Le film Chien, quoique, ce n'est pas évident.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Si tu veux participer au cours, tu dois le faire en tant que chien. Quoi ?
Bah, je suis un homme, hein.
T'en es vraiment sûr ? Voilà, chercher.
Alors, on a déjà vu des hommes hein, devenir des chiens au cinéma. On se souvient de Didier et d'Alain Chabat. Alors, évidemment, c'était drôle quand c'est Samuel Benchetrit qui s'y colle à transformer un homme en chien. C'est un peu moins drôle, mais pas dénué de saveur et d'intelligence. Après Asphalt, qui était déjà déroutant, avec son cosmonaute tombé du ciel dans une cité du 9-3, voici Chien, un film adapté de son roman, écrit après une dépression. Un roman sur un homme qui n'est plus très certain d'en être et donc ça nous étonnera pas hein, sur la tonalité du film. Jacques Blanchot ne résiste pas quand il perd sa femme qui lui dit simplement eh bien, qu'elle est victime d'une maladie qu'elle appelle la blanchoïte aiguë et qui la pousse à se gratter et que donc eh bien, pour qu'elle puisse guérir il vaut mieux que lui s'en aille. Quand il perd son travail eh bien, non plus, hein, même si son patron le prie de l'attaquer au prud'homme pour espérer au moins toucher un petit quelque chose, eh bien, Jacques ne se révolte pas et quand il veut faire plaisir à son fils en lui offrant un chien qui a eh bien, une triste fin, il ne se résigne qu'à une seule chose, honorer les 10 leçons de dressage qu'il avait pris pour le chihuahua. À 50 euros la leçon, c'est vrai que ce n'est pas rien. Alors à ces leçons, il retrouve Max, un éleveur aux méthodes dures, qui ne trouve rien de mieux que de proposer à Jacques de suivre les leçons eh bien, en tant que chien. Et quand on sait que c'est Vincent McCain qui a été choisi pour ce rôle, avec son petit embonpoint et son air de chien battu, eh bien, on se laisse tranquillement aller.
Allez, Jacques, attaque.
Non.
Attaque, Jacques.
Non.
Allez, attaque.
Non.
Attaque-moi, je...
Non.
Attaque-moi.
Non.
Et Jacques, attaque.
Non, vraiment, je préférerais pas...
Là, c'est précisément l'extrait hein, où son patron le demande de l'attaquer au prud'homme. Alors, pas plus qu'il ne s'est battu pour retrouver sa femme et virer l'amant qui avait pris la place ou qu'il n'a tenté de reconquérir son travail, eh bien, Jacques se soumet à la terrible discipline de Max, l'éleveur, capable de cruauté, de colère soudaine. Et au bout d'un certain temps, eh bien, Jacques maîtrise on ne peut mieux le assis, debout, couché. Nous sommes ainsi plongés dans une dystopie où il apparaît parfaitement normal d'être résigné à ne plus être qui que ce soit aux yeux de personne, sinon à être transformé en chien à la merci d'un maître. Ne nous prenons pas pour tout à fait des idiots, hein. Samuel Benchetrit s'amuse à placer quelques dissonances avec notre monde, quelques perturbations et organise des espaces partagés entre une maison aux lignes froides et rectangulaires, un magasin discount au bord d'une nationale extrêmement passante, une animalerie un peu cafardeuse et enfin un grand parc. On se dit ouf, mais lui, il est complètement gelé. Le soleil transparaît peu dans Chien, marqué par une image cinémascope, mais des lumières atténuées et une météo grisâtre. Cette dystopie absurde, pleureuse et parfois drôlatique regarde notre société qui exclut à tout va avec ses injonctions, hein, comme avoir de l'argent, une femme ou être beau, ce que notre personnage refuse, préférant rester en laisse et être mené au taser le temps de retrouver du courage. Métamorphose à la Kafka, fable animalière et surréaliste et farce noire se retrouve dans ce chien qui parle autant de chute sociale, du pouvoir, du fascisme, d'abandon de soi que du besoin de rêverie. La fin du film est à ce titre une contemplation canine vraiment savoureuse. Alors Vincent McCain en chien, Bully Liners en maître sont excellents. Si vous y allez pour Vanessa Paradis, qui est aussi au casting, eh bien vous serez déçus parce qu'elle apparaît peu. Et on regrette tout de même que Jean-Claude Van Damme, hein, qui était pressenti pour jouer le maître à la place de Bully Lanner, n'ait pas compris le projet de Samuel Benchetrit. Ça, c'est ce que dit le réalisateur.
C'est un peu facile de dire ça, hein, voilà. Mais c'était peut-être vrai.
Et en plus, il a été trop gourmand sur le cachet, donc ça n'a pas pu se faire. Voilà, donc c'est Bully Lanner qui s'y colle et qui s'y colle très bien. Voilà, Chien de Samuel Benchetrit, c'est dans les salles depuis le 14 mars et ça nous donne l'occasion eh bien, de jouer un blind test spécial Vincent McCain, donc qui interprète le premier rôle. Acteur réalisateur au physique atypique, Vincent McCain peut s'incruster dans le cinéma d'auteur comme dans le commercial. On l'a vu notamment dans Le Sens de la Fête qui lui a valu eh bien, une nomination au dernier César dans le cadre du second rôle. Et il en profite aussi, Vincent McCain, pour réaliser ses films. Il a commencé sa carrière en 2007, mais c'est surtout depuis ces 5 dernières années que ses apparitions se multiplient à l'écran. Et si Vincent McCain, par exemple, ne vous dit rien, je pense qu'avec la voix, avec le ton, vous allez tout de suite comprendre de qui il s'agit.
Mon stage est lié au mérite. Et moi, au moins, je suis noté sur mon travail et pas sur mon physique.
Mais ça vaut mieux pour toi, hein. Tu sais skier, au moins ? Est-ce que tu sais skier, au moins ?
Non, je suis jamais allé à la neige, non.
Bah, t'es vraiment l'homme de la situation, hein.
Ben, sache qu'en France, il n'est pas nécessaire de s'y connaître dans un domaine pour avoir la responsabilité. Là, par exemple, le ministre de la Défense, tu crois qu'il sait faire du tank ? Ben, toi qui voulais avoir un stage en forêt, ben, en voilà un, hein.
Alors là, sa voix est curieusement un peu étrange, mais c'est bien lui. Alors, ça a été trouvé.
Et c'est La Loi de la Jungle.
Oui, film de Antonin Peretchatko, donc avec Vincent McCain, on entendait aussi Vim à la Ponce. Les deux se retrouvaient pour une station de ski, mettre en place une station de ski
en
Guyane, qui s'appelait Guyaneige. Deuxième extrait.
Ils ont quel âge, tes enfants ?
Les enfants ?
Ouais.
13 et 17.
Ah, t'as de la chance. Parce que j'aurais bien aimé avoir un fils, moi. Toi, j'aurais pu lui apprendre à jouer au ping-pong. Ou alors une fille. Bah, je lui poserais plein de questions. Elle m'expliquerait le secret des femmes.
Roger, il faut qu'on avance, là.
Alors ?
Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. La bataille de... Non, c'est pas ça.
Alors, c'est avec François Damien. C'était la seconde voix qu'on entendait. C'est des nouvelles de La Planète Mars, film de 2016. Pas. Et c'était Dominique Moll qui était à la réalisation. Et là, Vincent McCain jouait bien un collègue de travail psychopathe. Troisième extrait.
Moi, j'ai... En fait, je vais revendre ma société. Enfin, je m'apprête à rien faire.
Société de quoi ?
Internet.
Ok, Internet de quoi ?
Un truc, en fait, bon, un truc de rencontre. Voilà.
De rencontre sur Internet ? Ah, carrément. Et t'as rencontré quelqu'un sur ton site de rencontre ?
Bon.
Bruno est puceau.
Non, mais ça va, là, c'est bon.
Bah quoi ?
C'est n'importe quoi, hein.
Bah.
Non, mais c'est n'importe quoi, c'est tout.
Puceau ou PD d'ailleurs, on sait pas.
Et toi, t'es quoi ?
Je suis marié, moi.
Ah bon ?
Ah, deuxième voix.
Je ne sais pas.
C'est Laurent Lafitte. Et il y avait aussi Ludivine Sagnier, c'est le film Tristesse Club, film de 2014. Quatrième extrait.
Dis donc, je crois que t'avais raison. Hein. C'est une fille très très bizarre. Genre, nous trois à l'hôtel, c'est vraiment dans le lit.
Tu veux pas nous laisser, s'il te plaît ?
Bah, pourquoi ?
Parce que je sais pas, c'est quand même la moindre chose que tu puisses faire en tant qu'ami.
Attends, faudrait savoir, je croyais qu'on n'était plus.
Ouais. Eh, casse-toi, vas-y.
Bah, d'accord,
vas-y,
bon, d'accord, vas-y, ok, vas-y. Je me casse.
Bah merci.
Non mais non, je veux dire, moi si je m'en vais, tu me reverras jamais, hein.
Ouais.
Ah excuse-moi, tu me reverras jamais. Moi je te pardonnerai pas de me sacrifier pour une fille que tu connais à peine.
D'accord.
C'est ça que tu veux, tu veux plus jamais me voir.
Voilà, c'est ça.
Allez, venez.
Allez, viens.
Ouais. Là, tu te couilles que... là, t'es en train de te courir comme une merde, hein, tu te rends compte ?
Oui, enfin, écoute, si ça se trouve, tu me remercieras plus tard. Elle est peut-être très dangereuse, cette fille.
Alors, Manu, c'est pas...
Non, je ne sais pas.
C'est pas ta cam, Vincent McCain.
Non, pas spécialement. Et je crois que j'ai pas vu la plupart des films.
Alors, ça, c'est un film de Louis Garrel. C'est d'ailleurs lui qui donnait la réplique.
Alors, c'est sûr que je l'ai pas vu.
À Vincent McCain. C'est le film Les Deux Amis, film de 2015. Avec, normalement, ce sont deux amis. Et Louis doit aider l'autre à conquérir une femme. Dernier extrait de ce blind test où on cherche des films avec Vincent McCain.
Figure-toi que le docteur Placenta, eh ben, il exerce depuis 68 sans diplôme. T'en rends compte ? Bon bah du coup ils ont découvert que bah, moi aussi j'exerce sans diplôme. Bon bah voilà, hein, le cabinet est fermé, mon patron est en fuite et moi avec. Et toi ?
Je suis devenu obsédé. Par le visage d'une fille.
Ah, quel plaisir. C'était quoi ça?
Bon, celui-là, je l'ai vu. Hein. C'est La fille du 14 juillet.
Voilà, toujours un film. On a commencé avec un film de Antonin Peretchatko. Et bien là, c'était son premier film, son premier long métrage, La fille du 14 juillet, effectivement. Avec toujours Vim à la ponce qui donnait la réplique à Vincent McCain. Ainsi s'achève ce blind test spécial Vincent McCain.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors après les sommets du jour d'après et Seul sur la plage la nuit, hein, Hong Sang-soo nous revient avec un film de poche tourné en 5 jours avec une petite caméra et une équipe réduite. Alors la caméra de Claire réunit alors la compagne d'alors, parce que j'ai appris qu'ils sont séparés, Kim Min-hee, et la toujours rayonnante Isabelle Huppert qui se fond magistralement dans l'univers du coréen, une deuxième fois en fait, après le formidable In Another Country. Alors fidèle à ses méthodes de travail, hein, proche de l'esprit de Godard, plus que de Romer en fin de compte, Hong Sang-soo improvise un récit miniature moins anodin qu'il n'y paraît et nous parle de création, d'amour, d'honnêteté, d'image de soi. Alors je dis ça en vrac car il n'y a rien de figé dans cette comédie estivale qui porte en elle une gravité enfouie derrière les apparences. Alors la caméra de Claire rejoue une fois de plus les motifs habituels du cinéaste dans un esprit beaucoup plus dilettante. Alors lors d'un voyage d'affaires au festival de Cannes, hein, Man-hee est accusé de malhonnêteté par sa patronne et licencié. Alors Claire, une enseignante française, on apprendra plus tard qu'elle a enseigné la musique, Polaroid à la main, rencontre Man-hee et sympathise avec elle. Claire semble capable de voir le passé et le futur de Man-hee grâce au pouvoir mystérieux d'un tunnel qui était proche de la plage. Alors cette incursion, on va dire discrète, dans le fantastique, alors qui n'est pas une nouveauté chez Hong Sang-soo, hein, n'est qu'un prétexte pour revisiter le chassé-croisé d'une poignée de personnages décalés, dont un cinéaste alcoolique, hein, évidemment alter ego à peine voilé du cinéaste, qui déclare à un moment cocasse que 95% des ennuis qu'il rencontre proviennent de l'alcool. Alors l'amateurisme de surface, un mixage approximatif, image sans profondeur, n'est qu'un leurre, un artefact masquant des dispositifs de mise en scène d'une intelligence peu commune. Par la durée, parfois limite, de ces plans-séquences, Hong Sang-soo crée de vrais moments de grâce. Son sens économique du cadre en fait pour moi un des grands formalistes contemporains sans effet de signature. Isabelle Huppert, légère et gracieuse, offre aussi autre chose que ce que l'on attend d'elle habituellement. Elle étonne avec sa silhouette un peu burlesque, ce plaisir du jeu communicatif avec son corps et son goût de l'improvisation. On a même un peu l'impression de la redécouvrir. Alors face à elle, Kim Min-hee est toujours aussi belle et sublime, hein, sans jamais trop forcer, jusque dans sa gaucherie. Alors Hong Sang-soo est vraiment un des directeurs d'acteurs exceptionnels, un des meilleurs à mon avis, ce qui le place déjà très loin devant la plupart des cinéastes contemporains. Il intègre aussi, mais ce n'est pas nouveau, donc une brise fantastique dans une œuvre à la simplicité déconcertante, mais non dénuée de mystère. Alors la caméra de Claire, hein, ravie par sa fraîcheur, son air de ne rien dire, ce mélange de dialogues improvisés et d'autres très littéraires, une poésie enfantine et burlesque assumée se télescope dans un bel hommage au marivaudage de Romer, autre grand cinéaste qui suscite souvent des incompréhensions, alors qu'il a toujours réalisé des films que je trouve extrêmement maîtrisés sur le plan même visuel, sur le plan graphique. Alors on est loin de la gravité du jour d'après, hein, mais cette récréation existentielle qui filme Cannes comme un quartier coréen, s'appropriant très bien les lieux, hein, est une nouvelle preuve du talent de ce que je considère comme un des meilleurs cinéastes actuels. Mmh. Même si je pense que pour quelqu'un qui ne connaît pas ces films, c'est vraiment pas la meilleure entrée non plus.
Oh non, j'avoue. Voilà. Alors malheureusement, je l'ai vu à Cannes et il y avait d'ailleurs en présence d'Isabelle Huppert, donc ça c'était assez touchant. Mais j'avoue que je suis absolument pas rentré dans ce film. Effectivement, quand tu parles de l'amateurisme, il faut imaginer quand même un film tourné à la caméra, quasiment caméra épaule, avec un sens du mixage vraiment du son.
Alors c'est pas vraiment caméra épaule parce que les plans sont vraiment fixes et comme toujours chez Hong Sang-soo, avec toujours des petits zooms à des moments, mais c'est le cas de 80% de ces films.
D'accord. Voilà. Ouais. Bon, moi je suis complètement resté à la marge, mais comme c'était il y a un an, je pourrais même pas en parler, et donc je préférais toi en tant que spécialiste.
Spécialiste.
Je pense que de Hong Sang-soo, je pensais que tu pouvais donner envie aux spectateurs d'aller voir ce film. Alors on le précise aussi, qui est dans une durée un peu
bâtarde. 1h07. C'est bien. Hein. Moi j'aime bien les films courts. Alors
j'avoue que j'avais apprécié aussi cette petite durée. On passe à l'interview de cette émission, celle de Nabil Ayouch.
C'est un état d'esprit.
Cinérama. Chronique. Invité et nouvelles du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Le réalisateur Nabil Ayouch avait fait beaucoup parler de lui avec son précédent film, Much Loved, un portrait de femme prostituée à Casablanca, un tabou exposé au cinéma qui a fortement déplu au Maroc, où le film a été interdit et où les comédiennes ont dû faire face à des agressions de toutes sortes, y compris physiques. On reste au Maroc pour Radia, le dernier long-métrage du réalisateur franco-marocain. Le film choral se déroule sur deux époques, la première, celle de la poursuite de l'arabisation du pays, avec le gommage des identités et de la langue berbère dans un village perdu du Maroc au début des années 80. On y suit un instituteur à qui l'on demande d'enseigner en arabe à des enfants qui ne comprennent pas la langue. Et l'autre partie du film, la plus grande, eh bien, se déroule à notre époque. Cette fois-ci, eh bien, nous sommes à Casablanca, où couve une révolte. On y suit plusieurs personnages qui représentent eh bien, toutes des minorités. Une femme qu'on montre du doigt parce qu'elle ose s'habiller comme elle veut. Un jeune homme homosexuel moqué par les enfants de son quartier et ignoré par son père. Par ailleurs, adepte, enfin pas le père, hein, le jeune homosexuel adepte de Freddie Mercury, ce qui donne vraiment des séquences savoureuses. Il y a aussi une jeune fille de la bourgeoisie, un restaurateur juif qui s'occupe de son vieux père, inquiet pour le sort des siens. Et puis enfin, eh bien, une vieille femme qui propose des réunions dans lesquelles eh bien, les autres femmes s'émancipent. Avec ce film, Nabil Ayouch a voulu ramasser les contradictions, les paradoxes et les violences d'un pays dans lequel les homosexuels se font frapper, des femmes portant des jupes se font juger ou d'autres femmes manifestent contre l'égalité homme-femme dans le cadre de la réforme du code de l'héritage. En regardant Radia, on observe le Maroc d'aujourd'hui à la lumière de celui des années 80 où l'islamisme conservateur est apparu. On y perçoit la menace contre les libertés et l'apathie des consciences. Et comme toujours, eh bien, Nabil Ayouch est bienveillant avec ses personnages, lui dont le cinéma s'intéresse majoritairement aux minorités. Et il critique avec ténacité au fil de sa filmographie une société marocaine qui, si elle s'ouvre, sait aussi se refermer. Et c'est ce qu'on voit dans ce film. On écoute le réalisateur que l'on a rencontré à l'automne au Festival du cinéma méditerranéen.
L'idée originale vient de moi et vient de discussions qu'on a eues par la suite pour façonner le film. C'est-à-dire que si vous voulez, ces cinq personnages sont des personnages que j'ai rencontrés depuis une vingtaine d'années maintenant que j'habite au Maroc. Ce sont des personnages qui sont autour de moi. Je m'en suis ouvert à Mariam et ensuite tous les deux on a construit le scénario et construit l'histoire ensemble.
Namichi.
Il était hors de question pour moi, après Much Love, de me laisser entraîner dans des faux raisonnements qui consisteraient à dire « Voilà, le film a été l'onde de choc qu'on sait, du coup la réception du prochain va être extrêmement attendue, observée, il faut que je fasse attention. » Pas du tout. Par contre, j'avais envie de m'exprimer différemment, mais je crois avec tout autant de sincérité sur des sujets qui sont... des sujets qui continuent à me hanter depuis de très nombreuses années.
Allez, comme ça, là, Malo.
On en arrive toujours à la même problématique, si vous voulez, c'est les droits civiques fondamentaux, les libertés individuelles. Le fait que la femme, aujourd'hui, dans ses droits fondamentaux, soit à ce point bafouée qu'on lui refuse l'espace public, ou en tout cas qu'on le lui réserve à sa manière, le fait que la langue amazigh, au moment de la grande réforme de l'arabisation, et, dans toute sa diversité culturelle, ait voulu être gommée, bien sûr, ça fait partie des droits civiques fondamentaux, évidemment. Et ça fait partie des choses pour lesquelles aujourd'hui des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de gens se battent. Pas qu'au Maroc d'ailleurs, je précise, mais dans les pays du Maghreb. Parce que cette réforme, elle est commune aux trois pays du Maghreb, vous le savez probablement.
T'inquiète pas, papa. À Casa, il restera toujours assez de juifs pour nous enterrer.
Razia, ça veut pas dire faire la guerre. Razia, c'était à l'époque du prophète, il y a eu les premières razias, mais après ça s'est poursuivi. Et razia, c'est le fait de, en temps de guerre, d'aller dans un territoire qui n'est pas le nôtre et de s'accaparer effectivement absolument les biens, les richesses de l'autre et de repartir. Voilà. Donc voilà pourquoi razia. Parce que c'est prendre quelque chose qui ne nous appartient pas finalement. Et moi, je pense que quand on prend à quelqu'un quelque chose qui ne nous appartient pas, qui lui appartient, il y a toujours un effet boomerang finalement. L'histoire nous le rappelle. Voilà. Pourquoi Joe et les scènes de la communauté juive avec son père, c'est ça la question? Parce que cette communauté juive, elle fait partie de la diversité culturelle du Maghreb dont je parlais tout à l'heure. Parce que c'est une communauté à part entière et parce que je suis extrêmement triste quand je les côtoie, quand je les rencontre au Maroc, de voir à quel point cette communauté qui a joué un rôle si important dans l'édification du Maroc, aujourd'hui s'est réduite à peau de chagrin et pour diverses raisons, souvent politiques, mais pas seulement, son parti et quelque part ont ôté au pays une partie de son humanité, une partie de sa diversité. Et moi, j'en ai rencontré beaucoup qui me disent leur attachement au Maroc très profond, mais qui se retrouvent de plus en plus, isolés.
On a parlé des dizaines de fois. Tu sais ce que j'en pense.
Je sais. Mais cette fois, j'ai décidé. Je vais le faire.
Tu dis des bêtises parce que tu t'ennuies, ma chérie. Tu pourrais t'occuper, faire du sport, je sais pas, moi. Faire de belles choses. Tu voudrais te taper mes réunions de demain ? Ça te plairait ?
Arrête.
Bon, je ferai la grasse matinée. J'irai chez le coiffeur. Je prendrai soin de moi. Je me ferai beau. J'irai au restaurant. Avec des amis.
C'est vrai que ces cinq personnages dans le film ont des trajectoires très différentes parce que dans la société, il y a ceux qui résistent, il y a ceux qui abdiquent leurs rêves, leurs espoirs, et puis il y a ceux qui vont au bout. Et Salima, effectivement, et c'est pour ça que le film se termine avec elle, fait partie est le personnage dans le film qui décide d'aller au bout et d'incarner cet espoir. Parce que au fond de moi, j'ai de l'espoir.
Chante les démons.
Malfache.
Arrête.
Voilà, vous entendiez Nabil Ayouch, le réalisateur franco-marocain de Radia, un film choral très intéressant. Et il est en salle eh bien, depuis le 14 mars, tout comme le film L'affaire Roman J. de Dan Gilroy.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
On avait laissé Dan Gilroy ou Gilroy, hein, je sais pas comment on dit, bon, d'après toi Manu.
Je dirais Gilroy. Hein.
Voilà, bah, on va dire comme ça. Donc on l'avait laissé avec une vraie réussite, Night Call, avec Jack Gyllenhaal, qui tenait alors autant d'un scénario solide que d'une exploration nocturne de Los Angeles, dopée à l'info macabre. Le voici de retour avec l'affaire Roman J, un film pas facile qui reprend le principe du précédent long métrage en s'attachant donc à un personnage pour critiquer un système. Alors dans Night Call, c'était l'infospectacle et le libéralisme à tout crin. Ici, c'est la justice punitive et partiale. Si dans le précédent film, Jack Gyllenhaal lorgnait vers la psychopathie, ici, l'avocat Roman J. Israel fait partie de ces personnages limite autistes, hein, capables de régurgiter le code pénal à la demande. Alors, d'ailleurs, il y a une séquence hein, à l'intérieur où ses collègues s'amusent avec lui, comme si c'était une espèce de bête de foire. Alors, il ne s'agit pas d'un ténor du barreau dopé à la victoire, mais plutôt d'un avocat du back-office qui prépare tout en amont avec méticulosité. Alors, quand son mentor et associé meurt, le voilà propulsé dans le tribunal sans y être préparé. Sa rigueur morale passe pour un outrage.
Monsieur Ramirez n'était pas en état d'arrestation. On l'a pourtant interrogé sans lui avoir lu ses droits avant de l'empêcher de se rendre au petit coin en violation de ses droits civils.
Demande rejetée.
Si un flic vous retient de force et vous interdit d'aller au petit coin, c'est que vous êtes prisonnier.
Vous aborderez ce point lors du procès.
Mais j'aimerais l'aborder maintenant, il me semble que c'est
Monsieur
un motif...
Israël, je crois avoir été clair.
Si des gardes armés présents dans ce tribunal vous retenaient de force et vous interdisaient d'aller au petit coin, vous seriez par définition prisonnier.
Je vais vous condamner pour outrage si vous poursuivez dans cette voie.
Avec tout mon respect, vous me demandez de me conformer à une décision erronée et de temporiser. Je ne partage pas.
Eh bien voilà. Outrage au tribunal. Vous avez autre chose à dire avant que je fixe l'amende ?
Alors on voit avec quelle force et naïveté il affronte une machine aveugle, ou plutôt sourde, ses demandes. Hein. Alors cette partie du film est la plus captivante, car Gilroy ne cesse d'illustrer le fossé entre les idéaux et la réalité. Alors en prime, Roman J. Israel a l'air tout droit sorti des années 70, hein. C'est d'ailleurs de cette musique dont il s'imprègne et qui semble être sa seule nourriture. Interprété par Denzel Washington, l'avocat en revient toujours à la défense des droits civiques et de la liberté, celui des Afro-Américains évidemment, mais pas seulement. Hein. Un discours sur la justice ne suffirait pas à remplir un film, surtout de la part d'un scénariste de Jason Bourne, parce que c'est ce qu'a fait aussi
Dan
Gilroy. Ouais. Et je me souviens plus lequel d'ailleurs, parce qu'il les a pas tous scénarisés, me semble-t-il. Bon, alors cet homme intègre va devoir résister à plusieurs tentations. L'une d'elles prend le visage de Colin Farrell, dirigeant un grand cabinet d'avocats qui va tenter de le faire marcher à sa manière. Et l'autre tentation, eh bien je dois la taire, mais elle est purement scénaristique et condamne le film au bavardage puisqu'elle expose notre personnage si intègre à la corruption. Le film plonge alors de la vision politique au thriller, mais en gardant des temps longs de dialogue où Roman J. Israel expose ses tourments et ses craintes. Denzel Washington, qui a pris de sérieux kilos pour le rôle et qui change de physique à mesure qu'il change d'état d'esprit, parvient jusqu'à la fin à nous tenir éveillés, mais sans le soutien de Dan Gilroy, le réalisateur, avant tout scénariste, nous perd pour aboutir à une fin finalement trop prévisible. C'est un peu décevant, mais ça n'en fait pas non plus un film complètement raté, comme j'ai pu le lire par ailleurs. Voilà, ce film, alors je pense que Denzel Washington concourait aux Oscars et qu'il n'a pas reçu le prix.
Pour ce film hein.
Oui.
Ah, je ne savais pas, en fait.
Il me semble. Et parce que j'imagine aussi, comme il y a une transformation physique un peu à la Christian oui. Bale, que voilà, ça pourrait être interprété aussi comme du capotinage. Mais moi, je pense qu'il incarne suffisamment bien. Alors, d'ailleurs, ce Roman J, il s'appelle comme ça, dans le titre français, mais dans le titre original, c'est Roman J. Israel. On ne comprend pas pourquoi le Israel est parti.
Pour ne pas faire de polémique, je ne sais pas pourquoi.
Pas de polémique, surtout sur ce film.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il n'y a pas contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
La semaine prochaine, j'aurai l'occasion de vous parler de Après la guerre et j'espère avoir le temps de voir le dernier Kechiche. Et puis toi, Manu, ce sera du rattrapage un peu.
Du rattrapage et deux films confidentiels quand même. Battleship Island, un film coréen, et Mon 20e siècle.